Décryptage, Marie Cazadebé.
Aux États-Unis, c'est une épidémie qui fait davantage de morts que la route où les armes à feu, les opioïdes, ont tué près de 300 000 personnes depuis 2000. Pour la première fois, un laboratoire pharmaceutique comparé devant un tribunal, celui d'une petite ville de l'Oklahoma. Il est accusé, comme d'autres groupes, d'avoir rendu dépendants des centaines de milliers d'Américains avec ses médicaments antidouleurs aux effets proches de ceux de l'opium, notamment à coups de publicité mensongère.
Je vous encourage donc à écouter vos patients, à prendre leur douleur au sérieux et à utiliser les opioïdes pour les patients qui en bénéficieront, comme ceux que vous avez vus dans ce film.
Les effets de ces traitements sont dévastateurs. Les patients sont rapidement accros, parfois tentés de substituer leurs pilules par de l'héroïne ou des opioïdes de synthèse. Comment les États-Unis en sont arrivés là? Nos invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Pierre Monégier.
Bonsoir. Marie.
Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes reporter au magazine télé Envoyé spécial sur France 2. Votre enquête anti-douleur, l'Amérique dévastée, a été diffusée en février dernier. Elle est toujours accessible sur Internet, j'ai vérifié. Ouais. Et bonsoir Anne Corpé.
Bonsoir.
En direct avec nous de RFI, vous êtes l'envoyée spéciale permanente de la Radio du Monde. Vous avez signé notamment un grand reportage fin 2017 sur les effets de cette épidémie en Virginie occidentale. Alors je le disais en introduction, c'est le premier procès public contre un des laboratoires tenus responsables de l'épidémie d'opioïdes qui s'est ouvert hier, donc dans l'Oklahoma. Mais d'autres procédures, et c'est une particularité américaine, se sont conclues par des arrangements financiers, Anne Corpé, des laboratoires incriminés dans ce scandale ont déjà connu des revers.
Oui, en fait, au départ, la procédure dans l'Oklahoma comprenait plusieurs entreprises pharmaceutiques accusées d'avoir incité fortement les médecins à prescrire ces médicaments dangereux sans tenir compte de leurs effets dramatiques. Et deux de ces compagnies, Purdue Pharma, la plus importante, celle qui a commercialisé l'oxycotine, qui est à l'origine de la majeure partie des addictions aux États-Unis, et Teva, une compagnie israélienne, ont préféré passer un accord à l'amiable avec l'État de l'Oklahoma. Purdue Pharma a conclu qu'elle va verser 270 millions de dollars à l'État. L'accord a été conclu dès le mois de mars dernier. Et Teva, l'entreprise israélienne, a elle signé un accord dimanche, c'est-à-dire à la veille de l'ouverture du procès, pour 85 millions de dollars. Ces entreprises, en fait, préfèrent payer plutôt que d'exposer publiquement la manière dont elles ont incité les médecins à prescrire leurs médicaments.
Alors 2000 procédures ont été engagées par des États ou des collectivités locales aux États-Unis. Ça signifie que ce procès dans l'Oklahoma doit être le premier d'une longue série. Pierre Monégier, il ne reste donc plus que sur le banc des accusés un laboratoire, Johnson & Johnson. L'État de l'Oklahoma compte obtenir une réparation pour une situation finalement qu'elle a dû gérer. Ça peut paraître un peu terre à terre, mais finalement, cette épidémie, elle coûte très cher à la société américaine. L'Oklahoma estime le coût à 17,5 milliards de dollars.
Extrêmement cher, en effet. Les chiffres vont vraiment vous donner le vertige. Jusqu'à l'année dernière, le gouvernement américain estimait que le coût de la gestion de la crise, services de police, mais aussi les enfants dont les parents meurent d'overdose, qu'il faut placer, enfin, dans son ensemble, que tout le coût de la crise coûtait à l'État américain 80 milliards de dollars par an. Ils ont refait leurs calculs, ils sont arrivés à 504 milliards de dollars par an. C'est 2,5% de leur PIB. C'est énormissime.
Alors, c'est la première cause de mortalité évitable aussi avant 50 ans. Je l'ai dit, c'est loin devant les accidents de la route et armes à feu, donc comme cause de mortalité. Les overdoses ont même contribué à faire baisser l'espérance de vie aux États-Unis en 2017 pour la troisième année consécutive. Alors, le procureur de l'État de l'Oklahoma poursuit les laboratoires pour trouble à l'ordre public. Qu'est-ce qu'il leur est reproché précisément, Pierre Monégier?
Ce qu'on reproche, en fait, à ces laboratoires, c'est d'avoir minorer les risques d'addiction de médicaments qui sont très utiles quand ils sont bien prescrits. C'est des médicaments antidouleurs extrêmement puissants qui rendent service à des millions de personnes à travers le monde, des gens qui souffrent notamment de cancer en phase terminale. Mais c'est un peu le revers de la médaille. Et on le sait depuis l'Antiquité, les médecins le savent, ces médicaments qui sont des dérivés de l'opium, ils peuvent certes soulager, Le revers de la médaille, c'est qu'ils sont extrêmement addictifs. Il faut des années pour se débarrasser de cette addiction et il faut seulement 5 jours pour que l'addiction, la dépendance physique, chimique soit installée. Donc il faut vraiment contrôler la façon dont on les prescrit. Et en fait, ce qu'on reproche aujourd'hui aux États-Unis à ces laboratoires, c'est d'avoir dit « Non, non, rassurez-vous, la façon dont nous, on a transformer cette molécule, soit en faisant des patchs qu'on met sur la peau, soit en faisant des molécules qui vont se diffuser dans votre organisme en 12 heures et pas de façon très intense en quelques minutes. La façon dont on a en fait travaillé cette molécule fait que les risques d'addiction sont quasiment nuls. C'était faux.
Anne Corpé, est-ce qu'on en sait un peu plus sur leur stratégie à ces laboratoires pour tenter de convaincre aussi bien finalement l'Agence fédérale des médicaments que les médecins ? On parlait tout à l'heure de publicité mensongère. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur la façon dont ils sont arrivés à s'imposer sur le marché ?
Ça a été une démarche marketing extrêmement agressive à très large échelle. Elle a d'abord été dirigée vers les médecins, c'est-à-dire qu'il y a des conseillers de ces entreprises qui ont débarqué dans les cabinets des médecins en leur faisant découvrir ces médicaments qu'ils qualifiaient de miracles. Il faut dire aussi que c'est arrivé à un moment, à la fin des années 90, où les autorités sanitaires américaines ont décrété que le traitement de la douleur devait être une priorité. Et ces entreprises pharmaceutiques ont surfé sur cette nouvelle priorité et sont allées massivement vendre aux médecins leurs médicaments, parfois en les corrompant, en leur offrant des croisières, en leur offrant toutes sortes de, par exemple, de financements pour poursuivre leurs études, des espèces de stages, pour mettre à niveau leurs connaissances. Et tout ça a finalement conduit les médecins à peu relâcher leur vigilance. Pour certains à croire à ce qu'on leur racontait et pour d'autres à simplement rentrer dans un système de corruption pour prescrire de plus en plus massivement ces médicaments.
Alors ces antidouleurs donc, inondent le marché au milieu des années 90. Angela Gray s'en souvient, elle dirige le service de prévention des risques au département sanitaire du comté de Berkeley en Virginie-Occidentale où vous l'avez rencontré, Anne Corpé.
En 1994, quand je suis devenue infirmière, les autorités sanitaires et hospitalières ont estimé qu'on ne traitait pas assez la douleur. Donc, ils ont décidé de nous pénaliser si on ne traitait pas la douleur. Du coup, on a commencé à donner plus de médicaments. Et dans le même temps, les industries pharmaceutiques ont produit l'oxycodone. Nous ont dit que c'était un opiacé très peu addictif. On sait maintenant que c'est faux et qu'ils avaient les études qui le prouvaient à l'époque, mais ils ont fait de la publicité mensongère, l'ont distribué partout dans le pays et fait d'énormes profits, des milliards de dollars avec cela.
Pierre Monégier, qui prend ces antidouleurs ? Pour quelles raisons ? Quels sont finalement les patients qui se retrouvent dans cet engrenage ?
Eh ben, le problème, c'est que c'est souvent pas forcément des patients qui devraient se voir prescrire ces médicaments. C'est toute la difficulté, si vous voulez. Lorsqu'on parle d'opioïdes, on parle de toute une famille de médicaments qui sont des dérivés donc de la morphine et qui peuvent être plus ou moins puissants et plus ou moins addictifs. Le plus puissant, ce sera le fentanyl. C'est des médicaments qui sont aussi prescrits en France. Pour soigner des cancers, pour soigner des douleurs extrêmement violentes, voilà. Toutes sortes de types. Ça, c'est quand même vraiment, vraiment les médicaments les plus puissants. L'oxycodone, dont on vient de parler, c'est un peu moins puissant. C'est effectivement celui qui est beaucoup dans la ligne de mire parce que c'est le laboratoire dont parlait Anne Corpé, Purdue Pharma, qui a été vraiment précurseur, qui a vraiment insufflé ce changement dans la mentalité des médecins qui se sont mis à prescrire tous les opioïdes à cette période-là. Ça, c'est moins fort et c'est parce que c'est moins fort que le lobbying de ce laboratoire pharmaceutique a permis d'élargir le champ de prescription à des choses comme des douleurs chroniques. Nous, on a retrouvé dans notre enquête des patients qui étaient, entre guillemets, des patients modèles, c'est-à-dire qu'ils ont été utilisés dans des publicités pour vanter les mérites de ces médicaments par ce laboratoire et pour vanter le fait qu'il n'y avait pas de dépendance. Bon, près de la moitié de ces patients sont morts de complications liées à l'addiction. Et l'une des patientes qu'on a retrouvées nous raconte sa descente en enfer, qui est l'histoire d'une héroïnomane, alors que c'est quelqu'un de... C'est pas du tout le profil que vous pouvez imaginer d'un toxicomane. Oui. C'est une femme entourée de sa famille, ses enfants, qui travaillent, etc.
Anne Corpé, c'est ça qui est frappant. On va chez le médecin parce qu'on a mal, je ne sais pas, à un membre après un accident, et finalement on se retrouve à vivre un cauchemar.
Oui, et ça a même concerné, je ne sais pas, des gens qui se sont fait arracher les dents de sagesse, par exemple. En France, on nous prescrit du paracétamol. Aux États-Unis, pendant de longues années, on a prescrit des opiacés aux gens qui se faisaient arracher les dents de sagesse. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tous les États les plus touchés, en particulier la Virginie occidentale où je me suis rendue, sont des États où il y a une population qui travaille, par exemple, dans le secteur minier. Donc, un travail extrêmement exigeant sur le plan physique, avec des douleurs chroniques. Et c'est pour ça que ces États, ces populations plutôt pauvres, ont été particulièrement touchées par cette épidémie d'opiacés, d'overdose, parce que elles sont les plus susceptibles d'avoir des douleurs. Alors, les ouvriers du bâtiment aussi sont très concernés, les mineurs, je l'ai dit, mais aussi les jeunes sportifs, par exemple. Moi, j'ai rencontré des familles dont les enfants jouaient au football américain, un sport extrêmement exigeant, ont été blessés et ont reçu des ordonnances d'opiacés et sont devenus toxicomanes. Et certains sont morts.
Pierre Monégier, l'argument brandi par l'avocat de Johnson & Johnson, donc ce laboratoire qui comparait depuis hier dans l'Oklahoma, c'est que la Federal Drug Administration, donc l'Agence fédérale du médicament, disait elle-même que les opiacés étaient rarement addictifs. Alors, Quel rôle a joué en fait ce gendarme du médicament dans cette épidémie? On a l'impression qu'il a manqué là quelqu'un pour mettre un coup d'arrêt en fait. Finalement, ces médicaments étaient légaux et se sont distribués en toute légalité.
Oui, effectivement, il y a d'anciens cadres de la Food and Drug Administration qui parlent aujourd'hui, qui reconnaissent que ils n'ont pas vu le problème, qui disent de bonne foi, comme le disait Anne Corpé à l'instant, on a voulu prendre en charge la douleur parce que c'était un domaine dans lequel la médecine ne faisait pas assez d'efforts, selon nous, et on s'est laissé un petit peu avoir, un petit peu embobiné. Il y a des gens que ça convaincra, des gens qui diront non, ils auraient dû être quand même plus méfiants. Nous, ce qu'on a remarqué dans notre enquête en remontant sur les 25 dernières années, c'est qu'il y avait des gens qui disaient attention, il y a eu des commissions sénatoriales qui ont dit dès 2011 qu'il y avait un problème. Il y a eu un premier procès en 2005, qui s'est conclu, qui visait donc le principal laboratoire Purdue Pharma, qui s'est conclu en 2007 avec la plus grande amende à l'époque jamais infligée à un laboratoire pharmaceutique, $600 millions. Tout le monde pensait qu'après ça, tout irait bien, que les laboratoires avaient retenu la leçon. Mais en fait, à l'époque, le laboratoire, $600 millions d'amende, il réalisait $35 milliards de bénéfices. Donc derrière ce camouflet juridique, ils ont embauché des centaines de visiteurs médicaux.
On entendait tout à l'heure une infirmière qui avait l'air tout à fait de bonne foi quand elle disait qu'elle souhaitait justement soulager ses patients. On a parlé aussi, on a évoqué évidemment peut-être des cas de corruption des médecins, mais est-ce qu'on, dans l'ensemble, finalement, ces médecins croyaient vraiment aux médicaments qu'ils prescrivaient? Est-ce qu'ils n'ont pas vu, eux aussi, le danger?
Bien sûr, il y a eu des cas de corruption de médecins. Il y a eu des médecins qui ont monté des cliniques qu'on a appelées aux États-Unis des pill mills, où ils faisaient simplement tourner. Il y avait des centaines de gens qui faisaient la queue derrière et on leur distribuait des médicaments. Il y a un groupe pharmaceutique, Insys Therapeutics, qui risque des amendes de prison et de la prison ferme parce que eux, ils ont carrément embauché comme visiteurs médicaux des stripteaseuses. Donc il y a eu des excès comme ça, mais il y a aussi effectivement de très nombreux médecins qui, de bonne foi, se sont dit pour mes patients, je dois prescrire ça. Et quand les patients revenaient et disaient bon, voilà, les 10 pilules que je prenais et qui me soulageaient et je revivais ne marchent plus aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Eh ben, prenez-en 15, puis prenez-en 20. Qu'est-ce que vous dites à un patient que vous connaissez depuis 15 ans et quand c'est vous-même qui lui avez donné la première prescription?
L'engrenage. Ouais. Jusqu'en 2017, Donald Trump décrète l'état d'urgence sanitaire. Il débloque alors $6 milliards pour la prévention, l'accès à des traitements et des antidotes en cas de surdose.
Cela va prendre de nombreuses années et même des décennies pour faire face à ce fléau dans notre société. Mais nous devons commencer maintenant à combattre. C'est une urgence sanitaire nationale. Nous allons gagner contre la toxicomanie en Amérique.
Corpé, on connaît maintenant les dangers de ces traitements. Il y a eu donc cet état d'urgence sanitaire décrété en 2017. Est-ce que l'on trouve encore aujourd'hui sur le marché américain ces antidouleurs à base d'opioïdes, comme l'oxycontine dont on a parlé tout à l'heure?
L'oxycontine reste un médicament qui peut être prescrit, mais évidemment les médecins ont retenu la leçon et ne le distribuent plus à tour de bras. Le problème, c'est toutes ces personnes, ces centaines de milliers d'Américains dépendants qui, faute de nouvelles ordonnances, se sont tournés vers l'héroïne. Et aujourd'hui, la grande préoccupation des autorités américaines, c'est le fentanyl, parce que les dealers d'héroïne ne distribuent plus d'héroïne, ils distribuent à la place du fentanyl, qui est cette drogue dont on parlait tout à l'heure, qui est un médicament 100 fois plus fort que l'héroïne et qui est normalement destiné aux malades en fin de vie. Et bien maintenant, c'est le fentanyl qui est retrouvé dans la plupart des analyses effectuées post-mortem sur les Américains qui meurent toujours d'overdose à grande échelle, parce qu'il ne suffit pas d'arrêter la distribution massive de médicaments. Il faut traiter ces centaines de milliers d'Américains qui sont aujourd'hui dépendants, et les États-Unis manquent cruellement de structures, et le traitement des malades coûte extrêmement cher.
Voilà, c'est ce que vous avez constaté déjà en Virginie occidentale. Donc fin 2017, les dépendants aux médicaments qui se tournent parfois vers des drogues illégales. Je vous propose de réentendre un extrait de ce grand reportage avec le récit de Jeff Angnou. Il est ambulancier de permanence au service d'urgence de Martinsburg.
J'ai vu beaucoup de cas d'overdose où les enfants sont à l'arrière de la voiture, en train de crier et de taper à la fenêtre. Un jour, il y a quelques mois, on a eu 10 overdoses en même temps. Une fille avait fait une overdose au milieu de la rue, et en même temps, il y avait une autre overdose sur la même route. Et après ça, il y a eu une overdose sur un terrain de baseball où les enfants s'entraînaient et leurs parents ont fait une overdose sur le parking. Cette nuit-là, on a eu une autre overdose de parents dont les enfants devaient avoir 3 ans ou 7 ans. Et ils étaient en train de recevoir des consignes par téléphone sur la manière de réanimer leurs parents qui gisaient inconscients sur le canapé avec tout le matériel exposé devant les enfants, des seringues, de la drogue. Tu vois ça et tu te dis « Waouh, ce sont des enfants ».
Pierre Monégier, les experts annoncent encore 500 000 nouveaux décès dans les 10 prochaines années. À cause de quoi? C'est parce qu'en fait, une addiction a donné naissance à une autre. C'est une épidémie qui en remplace une autre.
Oui, en fait, ces médicaments, en tout cas le fentanyl en pilule, les médecins vous diront, c'est un peu de l'héroïne en pilule. Hein. Donc, c'est les gens qui peuvent plus prescrire passent à l'héroïne. L'héroïne avait quasiment disparu aux États-Unis. Aujourd'hui, 4 personnes sur 5 qui démarrent l'héroïne aux États-Unis viennent de ces médicaments sur ordonnance. Juste un mot, on n'est pas à l'abri en France. On parle beaucoup des États-Unis. Vous parliez à l'instant d'overdose. En France, il n'y a pas vraiment de données statistiques sur les overdoses. Mais ces médicaments sont présents en France. Et ils sont en train de provoquer un début d'épidémie avec des gens qui, eux non plus, n'arrivent pas à s'en débarrasser. Aux États-Unis, il y a des milliers de procès en cours. En France, la semaine dernière, un couple a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour avoir dérobé dans des pharmacies, etc., près de 80 000 euros d'oxycontine, ce même médicament dont on parle. Mais en France, on considère que ce sont des criminels. On ne voit pas du tout ça, en tout cas, encore aujourd'hui, comme une addiction. Je crois qu'il faut faire un petit peu attention à ça.
Aux États-Unis, en tout cas, on ne les voit pas comme des drogués. Ce sont vraiment des malades que l'on prend en charge.
Oui, aujourd'hui, oui, ça a changé. Ça a été la ligne de défense de tous les laboratoires pharmaceutiques, de dire ces gens sont des drogués, voilà, etc. Ça marche plus. Ça marche plus parce que quand dans des petites villes, effectivement, où il n'y a jamais eu de problème de toxicomanie, tout à coup, vous avez un jeune étudiant brillant, une mère de famille, un monsieur qui travaille sur des chantiers, tous ces gens accro à la même drogue. Vous pouvez plus simplement dire que ce sont des drogués.
Merci beaucoup Pierre Monégier. Votre enquête pour Envoyé spécial Antidouleur, l'Amérique dévastée, est toujours disponible sur Internet. Merci Anne Corpé d'avoir été en direct avec nous de Washington. Merci à toute l'équipe de Décryptage. Éléonore Krenik, Françoise Delignon, Charles Barré et Hélène Avril. Tout de suite, un nouveau journal sur RFI.